Vous écoutez, on lit pour vous.
Des fraudes plus intelligentes. Un texte de Gérard Dubé paru le 10 mai 2025 dans Le Devoir. La fraude à l'investissement occupait le troisième rang dans le palmarès des escroqueries en 2024, mais dominait la liste et de loin, selon le préjudice financier causé. Avec ses deepfakes, ses robots et autres illusions, l'intelligence artificielle, IA, a créé une nouvelle génération de stratagèmes plus sophistiqués et a permis ses victimes un nombre croissant de jeunes. Les résultats de sondages publiés en mars 2025 permettent de dresser un état des lieux. D'abord, celui de la Banque Royale, RBC. On y observe que 88% des Québécois ont constaté en 2024 une augmentation des tentatives d'escroquerie par rapport aux années précédentes, la quasi-totalité des répondants évoquant des manœuvres de plus en plus ciblées et sophistiquées. À titre d'illustration, près des trois quarts estiment que les arnaques utilisant des deepfakes sont en augmentation. Plus directement, trois répondants sur cinq déclarent avoir reçu des arnaques personnalisées. Dans le sondage de la banque TD, plus du quart des Québécois affirment avoir été victimes d'une tentative d'arnaque ou de fraude financière durant la dernière année. Côté sentiment d'insécurité, 46% des répondants disent se sentir vulnérables face au risque d'être visés par une tentative de fraude. Or, seulement 20% sont persuadés de pouvoir déceler les tentatives de fraude. Dans celui de la RBC, ils sont 84% à estimer qu'il est de plus en plus difficile de reconnaître les escroqueries et de s'en protéger. Tout cela dans un contexte où 89% croient que les tentatives de fraude augmenteront durant la prochaine année. Des jeunes vulnérables. Il ressort de ce portrait d'ensemble que les jeunes figurent parmi les plus vulnérables ou les plus exposés. Du moins, à l'échelle canadienne, les membres de la génération Z sont ceux qui sont les plus susceptibles d'avoir été victimes d'une tentative d'arnaque ou de fraude financière, 45%, comparativement aux millénariaux, 34%, ou ceux de la génération X, 26%, nous dit la TD. L'essor de la finance numérique et la prolifération des occasions de placement offertes sur les médias sociaux n'y sont pas étrangers. Les autorités canadiennes en valeurs mobilières, ACVM, s'en alarment, tout en se disant préoccupées par la fréquence et le raffinement des cas de fraude à l'investissement en ligne. L'organisation indique que, pour la première fois depuis que les ACVM observent les incidents de fraude à l'investissement, le nombre de victimes est en hausse chez les jeunes Canadiens. Plus largement, il se dégage des données des ACVM que l'incidence de la fraude à l'investissement est en hausse chez les Canadiens de 55 ans et moins, et que le nombre de tentatives de fraude visant les gens sans épargne ou peu et les nouveaux investisseurs est en croissance. Préoccupation réglementaire. Le Centre antifraude du Canada, CAFC, a révélé que la fraude à l'investissement a occasionné des pertes déclarées de 310 millions de dollars en 2024. Celle-ci se classe au troisième rang des fraudes selon le nombre de signalements, mais elle est la plus coûteuse en matière de préjudice financier, soit près de la moitié des 638 millions de dollars en pertes liées à la fraude comptabilisée l'an dernier. À noter que la CAFC estime qu'entre 90% et 95% des cas de fraude ne sont pas dénoncés, ce qui laisse entrevoir que ce nombre ne représenterait qu'une parcelle de préjudice réellement causé. Le CAFC a reçu plus de 4000 signalements de fraude à l'investissement en 2024. On y observe que le harponnage escroquerie par courriel ciblé et la fraude sentimentale, deux tactiques utilisées couramment dans la fraude à l'investissement en ligne, comptaient parmi les 10 types de fraudes causant les plus grands préjudices financiers, indique-t-il. Il ressort du sondage de la RBC que 81% des répondants du Québec affirme que l'hameçonnage, courriel et texto, trompeur générique, et le harponnage, courriel et texto plus ciblés et semblant provenir d'une source fiable, sont les deux formes d'escroquerie les plus répandues. La majorité d'entre eux signale aussi une hausse des fraudes ciblant les aînés et des hyper-trucages faisant passer les fraudeurs pour des individus ou des organismes fiables. Et l'IA dans tout cela? Reprenant les données du CAFC sur les préjudices financiers, Fair Canada, qui se donne pour mission de militer pour renforcer les droits des investisseurs, avertit que l'augmentation des deepfakes et des robots pourrait encore faire grimper ce chiffre. L'IA a permis l'émergence d'une nouvelle vague de stratagèmes frauduleux sophistiqués, donc plus dangereux et plus risqués. Selon les recherches de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, CVMO, l'IA a augmenté les escroqueries, les a rendues plus efficaces et plus difficiles à détecter. Les victimes investissent 22 % de plus dans les escroqueries générées par l'IA que dans les escroqueries traditionnelles. Dans son rapport, la CVMO précise que les technologies d'IA générative suralimentent les escroqueries courantes en matière d'investissement en augmentant leur portée, leur efficience et leur efficacité. Sans compter que de nouveaux types d'escroqueries émergent et qui étaient impossibles sans l'IA, comme les hypertrucages et le clonage vocal, ou qui exploitent les promesses de l'IA par de fausses allégations de possibilités d'investissement assistées par l'IA. Quand on sait que cette sophistication survient dans un cadre juridique d'une autre époque, ses principaux visages. On connaît déjà les classiques. On pense aux escrocs qui se font passer pour des représentants d'organismes gouvernementaux officiels, à l'envoi de faux courriels d'institutions financières qui semblent légitimes ou, par voie téléphonique, au recours à la formule du faux représentant d'une institution qui fait appel à un sentiment d'urgence ou de peur pour inciter la personne au bout du fil à cliquer sur un lien et à s'approprier ainsi son identifiant. On pense à la fraude des grands-parents, où un soi-disant proche évoque un problème financier ou une situation précaire pour soutirer de l'argent à la victime. Cette arnaque s'en trouve facilitée par une IA permettant d'imiter la voix d'un proche, ou à celle du faux représentant qui avance que des comptes bancaires sont compromis pour soutirer un numéro d'identification personnelle, NIP, ou une carte de guichet bancaire. Fair propose une description de certaines techniques couramment utilisées grâce à l'IA. Deepfakes. Ce sont des images, des vidéos ou des enregistrements vocaux générés par l'IA qui imitent l'apparence ou la voix d'une personne. Les escrocs les utilisent pour se faire passer pour des proches, des cadres ou d'autres personnes de confiance afin de voler de l'argent ou des informations personnelles. Pump and dump. Les fraudeurs font de la publicité mensongère à propos d'une action pour faire monter, pump, son prix. Une fois que leurs actions ont atteint un prix élevé, ils les vendent pour réaliser un profit, dump, laissant les investisseurs particuliers avec des actions dévaluées ou sans aucune valeur. L'IA a rendu cette escroquerie encore plus convaincante. Elle est utilisée pour générer de faux articles d'actualité et de faux messages sur les réseaux sociaux. Les robots alimentés par l'IA inondent également les réseaux sociaux de faux commentaires à propos d'une action, donnant l'impression que tout le monde l'achète. Hameçonnage ciblé consiste à envoyer de faux courriels ou messages pour inciter les gens à révéler des renseignements personnels. Dans ses plus récents avertissements, l'Organisme canadien de réglementation des investissements, OCRI, met en garde contre un nouveau stratagème, l'intrusion dans un compte. Un type de fraude des plus préoccupants dit-il, les fraudeurs employant des tactiques complexes pour accéder à des comptes de placement et effectuer des opérations non autorisées ou virer des fonds vers leurs comptes non retraçables. Cette intrusion se produit lorsque des fraudeurs accèdent sans autorisation à un compte en ligne au moyen de courriels d'hameçonnage, de messages textes trompeurs, de liens malveillants ou d'applications nuisibles. Les victimes sont souvent trompées par des demandes urgentes de mise à jour de leur mot de passe ou bien cliquent sur des liens malveillants. Les fraudeurs se font passer pour des sociétés et des organisations dignes de confiance, indiquant souvent que celles-ci sont réglementées par l'OCRI, souligne l'organisme. Harponnage. Il se veut plus dangereux ou insidieux encore. Se faisant passer pour des collègues ou des contacts fiables, les escrocs utilisent l'IA pour améliorer la grammaire, corriger les fautes d'orthographe et adapter leurs messages à des personnes ou à des organisations données afin que leurs tentatives soient encore plus convaincantes. C'était « Des fraudes plus intelligentes », un texte de Gérard Dubé paru le 10 mai 2025 dans Le Devoir.
Des élèves d'Ulukaktok préparent une appli pour traduire l'Inuinaktun. Un texte de Radio-Canada avec des informations de Mark Winkler et Hilary Bird paru le 12 avril 2025 dans Espaces autochtones. Des élèves de l'école Helen Kalvak Eliagvik, située à Ulukaktok, au territoire du Nord-Ouest, travaillent en partenariat avec l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique pour développer une application mobile visant à préserver l'Inuinaktun, un dialecte de la langue inuit. L'Inuinaktun, qui comptait quelque 500 locuteurs de langue maternelle en 2021, connaît un déclin graduel depuis ces dernières années. Ce dialecte court sur une région qui s'étend d'Ulukaktok jusqu'aux communautés de Kogluktuk, Cambridge Bay, dans l'ouest du Nunavut. Selon le gouvernement des territoires du Nord-Ouest, il y avait environ 259 locuteurs sur le territoire en 2019. C'est précisément ce qui a donné l'idée à Darren Leitch, à la suite d'une réunion parents-professeurs, de créer une application mobile de traduction simple à utiliser. Citation. Dès que nous nous sommes lancés, les enfants ont eu des idées assez fantastiques sur ce qu'ils voulaient faire, dont l'enregistrement des voix de leurs aînés. Fin de citation, raconte l'enseignant de l'école Helen Kalvak Eliagvik. Tendre le micro aux aînés. Darren Leitch affirme avoir commencé à travailler sur le projet avec ses élèves cette année. Comme l'initiative a rapidement dépassé ses aptitudes en programmation, l'enseignant a sollicité l'aide de l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique. Un groupe d'étudiants d'un programme de technologie informatique a fait appel à l'intelligence artificielle pour commencer à élaborer l'application. Une fois terminée, la future application sera baptisée Echo of the North. Selon Darren Leitch, elle sera en mesure de traduire des phrases complètes en Inuinaktun et offrira des enregistrements de conversations d'aînés. Ces derniers temps, les élèves de l'école Helen Kalvak Eliagvik consacrent leur temps à enregistrer des entrevues avec des aînés et à alimenter une base de données pour que le programme d'intelligence artificielle apprenne le plus de mots possible en Inuinaktun. Darren Leitch souligne toutefois que ce travail est une mission de taille, compte tenu des différents dialectes de l'Inuinaktun qui varient selon les régions et les familles. Ce processus pourrait, selon lui, prendre des mois, voire des années. Joanne Ogina, une aînée d'Ulukaktok ayant participé au projet, juge que ce type d'initiative de préservation de la langue est positif. L'Inuinaktun, dit-elle, est surtout employé parmi la génération plus âgée. Selon Statistique Canada, la moitié des personnes ayant l'Inuinaktun comme langue maternelle étaient âgées de 55 ans et plus en 2021. Citation. J'espère que cette application revitalisera la langue chez nos jeunes, car beaucoup d'entre eux la parlent rarement ou n'ont même pas la chance de l'entendre. Fin de citation, conclut Joanne Ogina. C'était des élèves d'Ulukaktok préparent une appli pour traduire l'Inuinaktun, un texte de Radio-Canada avec des informations de Mark Winkler et Hilary Bird, paru le 12 avril 2025 dans Espaces autochtones.
CBC Radio-Canada ne versera plus de primes individuelles à ses employés. Un texte de la presse canadienne paru le 14 mai 2025 dans Le Devoir. Le conseil d'administration de CBC Radio-Canada a annoncé mercredi que la société d'État ne verserait plus de primes individuelles à ses employés. Le conseil d'administration a déclaré dans un communiqué de presse qu'il mettrait fin à ce que CBC Radio-Canada appelle la « rémunération au rendement » et qu'il ajusterait les salaires des employés concernés afin de les indemniser. Cette décision survient après que le radiodiffuseur public a été critiqué pour avoir versé des millions de dollars de primes après avoir supprimé des centaines d'emplois. Elle fait suite à la publication d'une étude indépendante réalisée par le cabinet de services conseil en ressources humaines Mercer Canada sur la rémunération des employés non syndiqués, y compris les cadres supérieurs, au sein du radiodiffuseur. Cette étude a déterminé que la rémunération globale des membres du personnel de CBC Radio-Canada se trouve au point milieu, 50e centile, de la rémunération du marché de référence, constitué d'un groupe de médias et d'organisations des secteurs privés et publics. Même si CBC Radio-Canada est généralement aligné sur d'autres entreprises et organisations du secteur privé, les primes ont fait l'objet d'un examen minutieux. Si CBC Radio-Canada décide de se débarrasser de son programme d'incitation basé sur la performance, elle devra prendre des mesures pour s'assurer que la rémunération reste dans la moyenne du marché, de sorte que la rémunération globale demeure équitable et que la société puisse continuer d'attirer et de conserver les talents nécessaires à sa réussite, a indiqué la Société d'État dans le communiqué. Pour maintenir la rémunération globale alignée à la médiane actuelle, le salaire des personnes touchées sera réajusté de sorte à compenser l'élimination de la rémunération individuelle au rendement. CBC Radio-Canada continuera de fixer des objectifs individuels et pour la société et à mesurer le rendement de ceux-ci, mais les cibles de rendement ne seront plus utilisées pour déterminer une partie de la rémunération individuelle, a-t-elle fait savoir. Selon le radiodiffuseur, cet examen était l'occasion d'évaluer la meilleure manière d'harmoniser le cadre de rémunération globale offert à CBC Radio-Canada avec les objectifs de service public de l'organisation. Il ajoute qu'il est important que la rémunération soit gérée de manière responsable sur le plan des finances comme des intérêts du public. C'était CBC Radio-Canada ne versera plus de primes individuelles à ses employés, un texte de la presse canadienne paru le 14 mai 2025 dans Le Devoir.
Trevor Barrett touche toutes les bonnes notes. Une entrevue réalisée par Richard Burnett paru le 25 mai 2025 dans le magazine Fugue. Créateur de théâtre, Trevor Barrett est reconnu pour son immense succès avec la comédie musicale de super-héros Captain Aurora et sa suite Captain Aurora 2, A New Dawn. Ce dramaturge queer met en scène la première mondiale de sa comédie romantique queer Max and Aaron Wright, A Musical, qui sera présentée au Centre Siegel de Montréal à partir du 15 juin. Situé dans le Montréal d'aujourd'hui, Max and Aaron Wright, A Musical, raconte l'histoire de deux amis d'enfance qui collaborent à la création d'une comédie musicale initiatique inspirée de leur propre vie. Leur partenariat est cependant mis à mal lorsque des vérités longtemps refoulées refont surface. Cette comédie romantique pleine de sensualité met en vedette les acteurs Rylan Allen, Émile Auger, Patrick Park et Nathaniel Bacon. Diplômée du programme professionnel de théâtre du Collège John Abbott, Barrett connaît bien les planches. Ce Montréalais a joué ou été régisseur dans des productions du Centre national des arts, du Centaur Theatre, de Repercussion Theatre et de Scapegoat Carnival. Il est également enseignant en théâtre au Siegel Center Academy et à la Geordie Theatre School. Trevor, qui a épousé l'acteur montréalais Oliver Price en 2022, s'est récemment confié dans une entrevue pour présenter Max and Aaron Write a Musical à l'affiche du Centre Siegel du 15 au 22 juin. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer Max and Aaron Write a Musical? En 2016, Kamana Ntibari-Kure était directrice artistique du Center for Education and Theatre in Montreal, CETM, et elle m'a offert une place dans leur festival Next Wave. Cela m'a donné l'occasion d'écrire la première version de Max and Aaron Write a Musical. Je voulais écrire une histoire d'amour queer, et je travaille sur cette comédie musicale depuis 8 ans. La raison pour laquelle je l'ai écrite en 2016 est toujours valable aujourd'hui. Même si le monde change, c'est encore un acte radical de monter un spectacle avec 4 personnages queer. Ton directeur musical, chorégraphe et producteur associé est Jonathan Patterson, et son mari, Chris Barillaro, a contribué aux nouveaux arrangements pour piano et voix. Ce sont 2 très bons amis. Jonathan a même participé à notre tout premier atelier en 2016. Et comme j'ai évolué en tant que créateur et compositeur au fil des 8 dernières années, tout comme le théâtre musical, je trouvais qu'il était temps de rafraîchir un peu le tout. Il y a donc de nouvelles chansons, et c'était naturel d'inviter Chris à se joindre à nous pour apporter une nouvelle énergie. L'artiste queer Cara Rebecca est la directrice d'Intimité. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a beaucoup de désir et d'amour sur scène dans cette production, et Cara s'assure que tous les moments d'intimité sont chorégraphiés, reproductibles et sécuritaires tout au long du processus. Comment les interprètes, Ryan Allen, Émile Auger, Patrick Park et Nathaniel Bacon, ont-ils abordé les scènes d'intimité? Tout le monde a lu la pièce, que nous avons aussi retravaillée en avril. Tout le monde sait donc à quoi s'attendre. Cela dit, nos répétitions sont basées sur la collaboration et le consentement, sous la supervision de Cara. Ce qui est vraiment précieux avec une directrice d'intimité, c'est qu'elle permet d'aborder des moments ou conversations délicates, comme « je ne suis pas à l'aise avec ça » ou « je ne suis pas à l'aise avec cette partie de mon corps ». On trouve alors des moyens créatifs de jouer la scène, tout en maintenant la sécurité de chacun et en gardant l'intensité du désir et de l'amour essentiels à notre spectacle. Ta comédie musicale se déroule à Montréal. Oui, Montréal est au cœur de notre pièce. Nous avons aussi ajouté des dialogues en français. Je suis ravi de ce niveau d'intégration où nos personnages peuvent vivre en tant que personnes francophones ou bilingues dans notre histoire. C'est une autre façon de rendre cela authentique. Comment était-ce pour toi de grandir en tant que jeune queer à Pointe-Claire dans l'ouest de l'île de Montréal? J'aime dire que je suis sorti du placard avant Glee en 2008 à 17 ans. Je l'ai fait dans un camp de théâtre musical en Ontario. Franchement, quelle histoire plus gay que ça! On explore cela dans le spectacle. Les 2 personnages se rencontrent dans un camp de théâtre musical, puis passent les 8 années suivantes à être amis tout en se demandant « Et si on avait tenté quelque chose? Et si on avait su comment faire notre coming out? Et si on avait su qui on était à ce moment-là? » J'ai compris que le coming out est un processus continu. Mon propre cheminement a été effrayant et m'a tenu en alerte pendant longtemps. Aujourd'hui, je suis vraiment confiant dans qui je suis, mais il y a toujours ce besoin de redéfinir ce qui est possible, ce qui est permis et qui on peut être. En tant qu'enseignant en théâtre, ayant donné des cours à McGill et à Concordia, que dites-vous aux étudiants et étudiantes queer sur le fait d'être out dans ce milieu? Ne faites pas le travail de casting à la place du metteur en scène. Faites votre travail. Pensez-vous que ce rôle est pour vous? Si vous sentez que c'est votre histoire, que c'est votre moment, foncez. Ce qui fait peur, c'est que quelqu'un d'autre prenne la décision à votre place. Mais si vous vous excluez vous-même avant même d'entrer dans la salle, alors vous n'avez aucune chance. Vous avez des stagiaires queer sur le plateau de Max and Aaron Write a Musical. C'est une autre raison pour laquelle ce spectacle est si important. Nous travaillons avec une équipe majoritairement queer et j'ai mis en place un petit programme de mentorat. 6 jeunes artistes queer nous accompagnent pendant tout le processus. J'ai contacté toutes les écoles de théâtre en leur disant « Dites-moi qui vous êtes, ce que vous voulez retirer de cette expérience. » Et j'ai reçu des réponses comme « Je suis une jeune artiste queer. Je cherche ma voix. Je ne sais pas ce que le monde du théâtre me réserve à Montréal. » J'adore le fait qu'on puisse être artiste queer ensemble, monter un spectacle et leur offrir une chance de réseauter avec des pros. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai beaucoup aimé votre spectacle « To Be » avec Adam Capriolo et Sean Colby, joué en janvier 2014 par votre compagnie Kaléidoscope. Leur scène d'amour sur le banc du parc m'a fait sourire. Ce baiser reste l'un de mes moments préférés au théâtre. Vous me l'avez dit, et je le garde précieusement dans mon cœur. Il y a encore plus de moments comme ça dans Max and Aaron Write a Musical. Vous considérez-vous comme un créateur de théâtre gay ou comme un créateur de théâtre qui se trouve être gay? Pour ce spectacle, je suis clairement un créateur de théâtre queer. On pense que le théâtre est très queer, non? Qu'il y a beaucoup de gays dans ce milieu. Mais quand je regarde ma carrière, surtout comme régisseur, je réalise que je n'ai pas travaillé avec tant de créateurs, créatrices queer que ça. C'est étonnant. Aujourd'hui, je suis entouré d'une équipe très queer, en régie, dans les décors, sur scène. Il y a tellement de personnes queer dans la salle que je me sens enfin autorisé à être moi-même. C'est un moment magnifique pour moi, que je vis rarement dans un cadre professionnel. C'est une occasion d'embrasser pleinement mon identité de créateur de théâtre queer. Donc oui, c'est une belle question et je suis sûr que j'aurai une autre façon d'y répondre à la fin de cette production. Info, Max and Aaron Write a Musical sera présenté au Centre Segal du 15 au 22 juin. Site web segalcenter.org, segalcenter.org. C'était Trevor Barrett touche toutes les bonnes notes. Une entrevue réalisée par Richard Burnett, parue le 25 mai 2025 dans le magazine Fugue.